et qu'on ait plusieurs fois, plusieurs dimanches, et puis que personnellement aussi, on soit chacun travaillé là-dessus. Qu'est-ce que l'arrogance spirituelle? Est-ce que je suis parfois, dans quel domaine? C'est pas que les paroles, hein. Est-ce que dans certains domaines, je suis en prétention, en arrogance spirituelle, même avec des belles proclamations? Ou bien pas du tout, parce qu'on n'a pas tous les mêmes défauts, heureusement. Mais à ce moment-là, comment résister? L'Ancien Testament, Cantique de Anne, là aussi, c'est les arrogants qui sont en question, et l'humilité. Et on voit ainsi que c'est un thème qui parcourt toute la Bible et qui est fondamental sur le cœur de Dieu, peut-être plus que la théologie de l'eschatologie ou de la sotériologie ou tous ces grands termes théologiques. La sotériologie, vous savez ce que c'est? C'est la théologie du salut. Voilà. Donc plus que tout ça, je crois que notre cœur, regarder notre cœur et comprendre le cœur de Dieu. Et je pense que ce matin, par le parler en langue et la petite parole qu'il a donnée à Sylvain, c'est une super introduction justement, au contraire de l'arrogance. Se souvenir, quand on pourrait l'inscrire en rouge, des fois on réfléchit avec le conseil si on veut mettre un texte biblique, comme dans beaucoup d'églises, là, sur la maison de l'espérance ou sur la façade. Et voilà, j'en aurais plusieurs à cœur. Mais là, je me dis que le thème qu'on pourrait dire, avec la parole de ce matin, avec ce thème de l'arrogance, c'est en tout et toujours, et quoi qu'il se passe, en premier, la grâce de Dieu. La grâce que je reçois, la grâce que je communique. Dans chaque circonstance, dans chaque défi. Savez-vous ce qu'est la jurisprudence du Titanic? C'est De Villiers, Philippe De Villiers, créateur du Vendée Globe avec d'autres, et puis surtout du parc, comment il s'appelle là, le parc de Vendée? Puis du Fou, voilà, grand succès, etc. Philippe De Villiers, homme politique aussi, assez clair sur la question de l'avortement et d'autres choses comme ça, ça ne se rencontre pas tous les jours. A parlé de la jurisprudence du Titanic quand ils ont créé le Vendée Globe. Il dit, le Titanic était parti sur un présupposé d'arrogance. Nous serons les meilleurs, nous serons les plus forts, nous serons les plus grands, nous allons tout dépasser. Et vous savez comment ça s'est concrétisé, je ne savais pas. C'est que dans les techniciens du Titanic, pour traduire cette volonté d'arrogance, ils ont dit, comme on est tellement sûr de nous, nous ne ferons aucun caisson étanche. Il n'y avait aucun caisson, une décision technique de ne faire aucun caisson étanche parce que notre Titanic est assez fort. Et Philippe De Villiers a dit, nous, au Vendée Globe, nos techniciens ont exigé 7 caissons étanches par bateau. Vous voyez la différence? Titanic, nous sommes forts. On a confiance en nous. C'est bon la confiance en soi. Il y a des tas de cours psychologiques qui encouragent à la confiance en soi. Il y a des limites. On ne fera aucun caisson étanche. Et De Villiers, avec l'équipe qui a organisé le Vendée Globe, ils ont exigé 7 caissons étanches à leur bateau. Combien, frères et sœurs, de caissons étanches avez-vous dans vos vies, de couple, personnel, face à vous-même, dans l'église? Combien on a de caissons étanches qui arrivent un diviseur, s'il arrive une hérésie, s'il arrive quelqu'un qui agresse les gens, qui descend un frère ou une sœur, combien de caissons avons-nous? Combien est-ce qu'on a de protection? Lesquels sont-ils pour ne pas couler? Deuxième illustration que j'aimerais pour introduire ce thème de l'arrogance, c'est un sondage. Quelle arrogance! Écoutez ça. Un sondage dans un journal, le Public Policy Polling, Institut de sondage américain, qui a révélé que Dieu recueillait tout de même 52% d'opinions favorables. Mais quelle arrogance, mes amis! Vous vous rendez compte, l'être humain a lancé un sondage pour juger Dieu. Et dans plein de domaines, ils ont fait l'enquête pour que les gens... Alors bon... Il y a le côté peut-être humour, je ne veux pas en faire une affaire d'État, et puis il y a le côté des laïcs qui ont le droit de poser des questions sur n'importe quoi, puis c'est une occasion de parler de Dieu, puis voilà, je ne veux pas en faire un drame. Mais quand même, ça révèle quelque chose du cœur humain. Ils ont fait plein de petites coches, plein de petites cases. Comment jugez-vous Dieu dans sa création? Que pensez-vous de son système où il y a les catastrophes naturelles? Êtes-vous satisfait du travail fourni par Dieu dans vos vies? Etc. 71% apprécient la création du monde. Pas mal, quand même. Au final, seuls 9% des sondés sont franchement déçus ou fâchés du travail de Dieu. Mais quelle arrogance de poser même la question. Alors, ce matin, c'est bien sûr pas pour jeter la pierre aux autres, c'est pour nous interroger, travailler nos cœurs nous-mêmes, parce que juger l'autre, ce serait déjà être arrogant, mais est-ce que je suis vraiment débarrassé de ces racines d'arrogance, de prétention? Est-ce que hier soir, c'était une arrogance que de juger un frère qu'on ne connaît pas? On peut se poser des questions. J'aimerais que notre réflexion soit sur prier, peut-être que vous pouvez le faire cet été, discerner avec le Saint-Esprit, je le dis sous une autre forme, cette arrogance, qu'est-ce qui résiste en moi à la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui ne se plie pas, au fond, à la loi de Dieu? Et je dis exprès loi de Dieu, je ne dis pas juste volonté de Dieu, intention de Dieu, ça c'est assez facile, on a tous le cœur de Dieu, etc. Seigneur, près de toi, je veux me tenir, on est tous d'accord. Mais qu'est-ce qui résiste en moi à la volonté de Dieu, à la loi même de Dieu? Pardon?
L'orgueil.
L'orgueil, oui, tout à fait, et plein d'autres choses. Chez chacun de nous, qui résiste à la loi de Dieu. Et dans les textes qu'on verra dans ce parcours cet automne, on verra vraiment que c'est ça l'enjeu quand même, c'est si je ne fais pas d'huile pour arrondir les ongles, à un moment donné, il y a la loi de Dieu, il y a le décret de Dieu, et je peux me heurter à cela. J'aime pas quand même, au fond, une loi qui ne me convient pas et que je dois plier devant. Donc, qu'est-ce qui résiste? Essayer de discerner un des objectifs, ce qui résiste en moi à la volonté de Dieu. C'est un exercice qu'on peut faire chacun avec ce titre, une feuille blanche. Qu'est-ce qui résiste en moi à cette loi de Dieu? Des choses, j'ai un petit peu de peine. Ça peut être des choses tout à fait compréhensibles. Ces textes violents de l'Ancien Testament que Dieu commande à son peuple à détruire un petit peuple tranquille, de tuer femme et enfant, c'est une loi de Dieu. Moi, ça résiste. La soumission, la place de la femme dans l'Église, il y a plein de choses. On peut dire l'autorité dans l'Église, quoi, ce ne serait pas démocratique. Selon nos caractères, on a tous des choses qui résistent. Ou bien sa non-réponse. Ou le fait qu'il laisse dans la vie quelqu'un souffrir dans la dépression, ou bien une mère de famille qui s'en va jeune. Ça résiste, et c'est normal, c'est juste, c'est bon. Et ces choses, Dieu ne nous demande pas de nous faire lobotomiser le cerveau, d'enlever ces choses, mais juste les transformer, que ça ne soit pas de l'arrogance. Je peux questionner Dieu. Dieu aime ce dialogue avec nous. Aucun problème avec ça. Mais pas de trace de supériorité face à Dieu ou face aux autres. Regarder l'autre comme supérieur et pas d'arrogance pour dire « je ne suis pas d'accord avec la loi de Dieu ». On entend des fois des gens dans l'église comme ça. « Moi, je ne suis pas d'accord ». Avec telle décision des anciens. Moi, je ne suis pas d'accord avec la volonté de Dieu. Ces choses qui résistent comme ça, qui ont de la peine à plier. Alors qu'on peut interroger, qu'on peut dialoguer, qu'on peut poser des questions, mais bien voir la différence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que, bien sûr, j'ai oublié de le dire en introduction, une des choses, vous avez bien, je pense, la plupart d'entre vous compris, qu'une des choses qui a aussi animé ma réflexion sur cette arrogance, c'est bien sûr le message de Samuel Peter Schmidt, qui a découvert dans ce coronavirus, dans sa maladie, vraiment quelque chose là qui en lui était faux et qu'il a dû travailler, qu'il travaille encore dans l'humilité en disant « J'ai dû comprendre à un moment donné, et ils étaient très forts, c'était aussi leur force à Mulhouse, cette proclamation. Je proclame par la foi que je ne suis pas malade, je proclame par la foi que Dieu est toujours vainqueur dans toutes les circonstances, je proclame par la foi que j'aurai un nouveau travail. » Et vous l'avez pas, vous, 3 mois, 6 mois. Eh bien, il a dû découvrir que cette proclamation, même dans la foi, peut être une arrogance. C'est peut-être pas la volonté de Dieu, ça. C'est peut-être pas la volonté de Dieu que tu sois que tu aies répondu, que tu aies réponse à ta prière pour cette fois, pour ton épouse, pour ton travail, pour ta difficulté, etc. Peut-être que Dieu a un autre plan. On peut pas proclamer comme ça, décider que c'est de l'arrogance. Et voilà, c'est cette même réponse que Sylvain a fait ce matin, que Samuel Peter Schmidt a fait, j'ai dû comprendre que ce n'est plus cette proclamation qui a changé quoi que ce soit ma situation. Bien sûr que c'est mieux d'être dans la foi que dans le doute et dans l'incrédulité, mais il a dû connaître que ce n'est pas ça qui a changé, et beau proclamer. Et à un moment donné, Dieu, dans sa proclamer, quand même tu peux plus prier ou croire des fois, le Seigneur dans sa grâce souveraine vient. Et le Seigneur, ça ne s'oppose pas du tout à une proclamation de foi. Le Seigneur peut te conduire des fois dans la saine humilité, non revendicative, dans son écoute, à ce qui te conduise lui à proclamer des paroles sur ta vie, sur ton pays, sur l'autre. Mais c'est tout autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu, moi je sois le premier, j'écoute même pas la volonté de Dieu, puis je décide que je dois trouver le travail, que je dois guérir, que je dois ça, et je proclame, Dieu peut s'asseoir. Et puis, vas-y. Et vous voyez, ce qui n'est pas arrogance et qui est foi, c'est faire un geste. J'écoute Dieu. J'ai de la peine, je n'ai pas de travail. Je suis malade, je suis en souci. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Je suis avec lui. Il peut peut-être te dire, bah, que c'est pas mal, non, que c'est plus tard, ou qu'il est en chemin à faire. Tout à fait haut de foi et d'humilité. Et on a trop souvent confondu la foi conquérante et triomphante avec la présomption, voire l'arrogance. Et donc, ça sera aussi un point où on pourra voir au travers de ce parcours biblique quelles sont les limites d'un esprit de foi conquérant, triomphant, juste, bon, dans l'humilité, ou bien ces proclamations présomptueuses qui ont parfois été dans l'Église. Et puis, la conclusion, le cheminement, ça sera de travailler notre dépendance de Dieu. Comment je peux concrètement travailler à cette dépendance de Dieu? Et ce matin, j'aimerais qu'on lise deux textes qui vont nous introduire et qui vont peut-être nous aider sur cet été à remplir notre feuille, de comprendre la différence entre l'humilité, la foi, l'arrogance, tous ces points-là, et qu'est-ce qui résiste en moi. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel. C'est ces deux cantiques que je mentionnais tout à l'heure, cantique de Anne, cantique de Marie, merveilleux texte. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, 1 à 4. 1 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 4. Anne pria et dit, on l'a fait ce matin, hein? Delphine nous y a encouragé, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ce n'est pas une espèce d'attitude comme ça, où on est contrit, ou faire des pénitences, c'est une prière de joie qu'elle a, hein? Elle est exaucée, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Mais vous voyez, ce n'est pas j'ai la force, ce n'est pas proclame que je suis fort, c'est ma force a été relevée, j'en avais pas et j'en ai. Vous voyez cette attitude qu'on peut analyser chaque chose. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. C'est tout tourné vers Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. C'est pas moi qui ai la bonne théologie, c'est pas moi qui ai raison, c'est pas moi qui suis au-dessus et qui ai la force. Toi seul, tu es saint. Tout est tourné vers Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. C'est pourquoi ne parlez plus avec tant de hauteur. Ne parlez plus, c'est pas ne parlez pas, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez parlé avec tant de hauteur. Anne est au milieu de son peuple. Elle dit, on a parlé avec tant de hauteur. C'est ne parlez plus, c'est pas ne parlez pas. On l'a fait. On est le peuple de Dieu. Mais ne parlez plus avec tant de hauteur. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est la vérité. Et je peux me réjouir en lui. Que l'arrogance, verset 3, ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Tu n'as pas besoin de lui réciter dans ta prière le problème de la voisine. Il sait tout, il est là. Et par lui sont pesées toutes les actions. Tout est dans sa main. Vous voyez quelle libération. Mais il sait tout et tout est pesé dans sa main. Il connaît tout. Il connaît. Chaque décision du premier ministre avant même qu'elle soit prise. Il sait pour mariage homosexuel, il sait pour l'avortement, il sait tout, il pèse tout. Cool. On est tout est dans la vie. Quel repos. L'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont faites toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Elle est faible. On la force pour ceinture. Cette fameuse ceinture de la vérité ou ces chaussures du zèle. Là, c'est la ceinture, on pourrait dire, du zèle. Elle est faible. On la force pour ceinture. Quand tu te sens faible, quand je me sens faible, là on est loin de l'arrogance. Mais on n'a pas rien, on a sa force comme ceinture. C'est ce qui va nous tenir. Nous ne sommes pas seuls et qu'on puisse proclamer vraiment, vous voyez, cette cette âne avec elle travailler ces versets, vraiment s'arrêter, pas aller tout de suite plus loin dans le texte. Mais voilà, quand elle voit ce renversement des forts, des puissants et puis que le faible, eh ben elle dit, peut-être qu'avant j'étais arrogante, peut-être qu'avant nous parlions avec hauteur, on n'était pas si fort que ça, on était à côté. Et quand je proclame, c'est Dieu qui sait, je suis dans le repos et je peux être dans cette force. Et ainsi mon cœur se réjouit en l'Éternel. Luc 1, le cantique de Marie, donc, qui est repris un petit peu de ça, mais à la sauce de Marie et du Nouveau Testament pour l'avenir de Jésus. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc 1, on va lire 46 à 56. Luc 1, 46 à 56. Luc, je laisse juste pour ceux qui cherchent, Luc 1, verset 46. Mon âme exalte le Seigneur. C'est de nouveau la joie. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. N'oublions jamais la joie. La joie, ce n'est pas de l'arrogance, c'est un cadeau de Dieu. Je vous donne ma paix, je vous donne ma joie. C'est des cadeaux du Seigneur. Et pourquoi mon esprit se réjouit? Eh bien, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse, la petitesse de sa servante. Voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait de moi, pour moi, de grandes choses. Son nom est saint, de nouveau. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Hier soir, on a Kelly, elle est là, Stéban, ça vous rappelle quelque chose, petite question. Sur ceux qui le craignent, c'est-à-dire c'est ceux qui veulent dépendre de lui, pas ceux qu'on peut, mais ceux qui dépendent de lui, ceux qui veulent se soumettre à lui, ceux qui veulent l'écouter. Eh bien, le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour ces gens-là. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge, c'est-à-dire à toujours sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses ou hautaines. Vous voyez, la bassesse de sa servante, la hauteur de ses pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Si vous avez faim et soif de plus dans vos vies de Dieu, il a rassasié les affamés dans cette relation avec lui, dans cette intimité. Il a renvoyé les riches, les mains vides. Si vous êtes riche, ce n'est pas une richesse pécuniaire. On peut être très pauvre pécuniairement, mais très riche, se croire très riche. On ne vous a rien, on sait tout. Si on est pauvre, eh bien on peut trouver le cœur de Dieu. Si on est juste plein de richesses, si on sait tout déjà, eh ben on est renvoyé les mains vides. Il a secouru Israël et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham, sa postérité, pour toujours. Voilà. La joie vraiment du Seigneur. On voit cette grandeur, je veux dire la grandeur du Seigneur. Il a abaissé ses yeux sur la bassesse de sa servante, abaissé les yeux sur son humble servante. La bassesse, ce n'est pas tout simplement un mot qu'on dit, mais sur son humble servante. Et il a dispersé ceux qui avaient le cœur orgueilleux. Nous ne voulons pas être frères et sœurs de ceux qui ont le cœur orgueilleux pour être dispersés par la main de Dieu, mais nous voulons être humbles, nous voulons être pauvres, quémandeurs de Dieu. Pour être rassemblés par lui, pour que nous puissions non pas être descendus de nos trônes, où on serait monté bien haut de nos certitudes, mais vraiment pouvoir dire avec Marie, avec Anne, nous sommes dans la joie, notre cœur est réjoui par cela. Ça va nous donner de la joie, du repos, parce que Dieu tient tout dans sa main et que j'ai juste à être à ma place. Lui à la sienne, et c'est lui qui s'abaisse, c'est pas moi qui monte au ciel. C'est lui qui s'abaisse, c'est la différence du christianisme avec plein d'autres religions. Ça serait une bonne question aussi, Kelly et Stéban. Quelle est la différence unique du christianisme avec toutes les autres religions? Sur plein de choses, c'est pareil, il faut faire des sacrifices, il faut prier, il faut tout ça, il y a même toutes les religions. Mais au lieu de monter vers Dieu, c'est Christ qui s'est abaissé. Et ça, c'est extraordinaire. Eh bien, si nous ne nous élevons pas, mais que nous sommes dans notre humilité, eh bien, la foi chrétienne, c'est Christ qui vient nous rencontrer, qui vient nous rassembler, qui nous donne sa joie. La joie de celui qui se sait en sécurité, qui n'a pas à prouver des choses, qui n'a pas à être sur son trône, mais qui est là sans résistance. Oui, il est d'accord de faire cesser les résistances, d'accueillir vraiment Dieu qui sait tout, qui voit tout comme son Père, qui ne juge pas, qui l'aime et qui donne sa joie et sa paix. On va prier. Seigneur, merci beaucoup pour cette sécurité que tu veux nous donner en toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être prétentieux comme les Titaniques. Nous ne voulons pas avoir des opinions plus ou moins favorables sur toi, mais nous voulons, avec Marie, avec Anne, avoir cette attitude fondamentale de savoir que tu t'abaisses sur nous, que nous n'avons pas à être sur des trônes et que tu veux nous rassembler, que tu veux nous donner ta provision quand nous sommes dans la dépendance avec toi. Seigneur, apprends-nous et ôte, extirpe de nous toutes ces pensées orgueilleuses et arrogantes qui sont propres au corps de l'homme, de tout homme. Et Seigneur, merci de pouvoir recevoir pour cet été, pour les temps qui viennent, ta paix et ta joie. Amen.